Fichier 6.
Dossier.
Le mouvement Chien Guide International. David Ménard coordonne depuis 2020 les activités de la Fédération internationale du chien guide, IGDF. Lui-même atteint de la maladie de Stargardt, une affection génétique de la rétine, il est depuis le Royaume-Uni au cœur des activités internationales du mouvement Chien Guide. Qu'en est-il du mouvement Chien Guide dans le monde ?
Eh bien, constat, le mouvement Chien Guide se porte bien. Trois nouvelles organisations issues du Canada, de Belgique et du Danemark ont rejoint l'IGDF en 2023. Quatre déjà passeront leur première évaluation en 2024. 20 sont accompagnées par la commission développement, dont certaines sont dans des pays avec peu ou pas de services, à Singapour, proche de l'affiliation, en Amérique latine et en Europe de l'Est. Toutefois, même dans les pays où le mouvement est bien établi, des difficultés existent. Les barrières culturelles aux chiens guides, les conséquences de la pandémie de Covid-19, un manque d'éducateurs qualifiés et un recul des familles d'accueil. Les refus d'accès, y compris dans les pays où celui-ci est garanti par la loi, sont par ailleurs un obstacle aux demandes de chiens guides, notamment pour les renouvellements.
Comment le chien guide a-t-il essaimé à travers le monde ?
Le mouvement chien guide moderne est apparu en Allemagne durant la Première Guerre mondiale pour venir en aide aux vétérans qui avaient perdu la vue au combat. Plusieurs centres apparurent à travers le pays jusqu'à ce que le chaos économique des années 1920 ne mette un terme à l'initiative. L'idée toutefois fut reprise dans différents pays et fut développée aux États-Unis puis au Royaume-Uni durant les années 30 et 40. Les associations bien établies aidèrent au développement dans de nouveaux pays, exportant à la fois leurs modèles et leurs techniques d'éducation. Les structures de chiens guides du Royaume-Uni aidèrent à la création de leurs pairs au Canada ou en Espagne. La FFAC a participé quant à elle à la naissance de l'association du Portugal. Aujourd'hui, les associations en Espagne apportent à leur tour leur soutien à de nouvelles implantations en Uruguay ou au Brésil. Les chiens guides australiens, pour leur part, soutiennent activement des organisations en Chine et à Singapour. Ces origines historiques expliquent la prévalence des pays anglophones dans le mouvement Chien Guide International.
Pourquoi certains pays, voire continents, sont-ils sous-représentés ?
La création d'une école de chiens guides nécessite une source de revenus stable, des éducateurs qualifiés et un approvisionnement en chiens adapté au guidage. Beaucoup de pays dans le monde n'ont pas de revenus suffisants. Il existe également des barrières culturelles. Les chiens peuvent être perçus comme dangereux ou sales et une approche différente du handicap peut s'opposer à ce que la personne handicapée soit confiée à un chien. Par ailleurs, le travail avec un chien guide nécessite l'existence d'infrastructures publiques adaptées, trottoirs, passages piétons et marquages tactiles, car leur absence rendrait la circulation difficile et dangereuse. Les conditions climatiques, extrême froid ou chaleur, rendent également complexe et peu éthique l'usage de chiens guides. Enfin, dans de nombreux pays, la présence de chiens errants, voire d'autres espèces animales, susceptibles d'attaquer les chiens guides, perturbe fortement le travail des équipes, c'est-à-dire personnes déficientes visuelles et chiens guides.
Quelles sont les perspectives d'évolution dans les 5 prochaines années ?
Un nombre croissant d'associations membres de la Fédération internationale du chien guide diversifie l'éducation des chiens afin de pouvoir réorienter les potentiels chiens inadaptés au guidage vers d'autres types d'assistance. La priorité au bien-être animal lié à une sensibilisation du public et à de meilleures connaissances scientifiques sont des enjeux majeurs. L'éducation par la méthode de renforcement positif permet à la fois de développer des équipes plus efficaces et une communication plus porteuse auprès du public, surtout à l'ère des réseaux sociaux. La norme liée au bien-être du chien de l'IGDF devrait donc être renforcée dans les années à venir. Une approche plus centrée sur l'utilisateur, prenant davantage en compte ses besoins et lui apportant un soutien plus complet, est également à l'étude. Une collaboration plus étroite de l'IGDF avec Assistance Dogs International, regroupement des associations de chiens d'assistance sur le plan mondial, devrait également permettre de travailler sur des enjeux tels que le recrutement de bénévoles, le bien-être des chiens et les droits d'accès des équipes. L'IGDF souhaite également continuer à réviser et améliorer ses normes. Tout l'enjeu est de promouvoir des normes exigeantes en veillant à ce que les organisations émergentes ne soient pas exclues.
Illustration. Portrait en médaillon de David Ménard. Photo d'une éducatrice japonaise contournant un vélo avec un chien guide au harnais. En incrustation, photo du conseil d'administration de l'IGDF et d'une salle de la conférence 2023 de l'IGDF, les participants autour de tables rondes tournées vers les écrans géants.